Nous acceptons, c'est là notre coup de maître, les particularismes, mais non les singularités. Les types, mais non les individus. Nous créons, ruse géniale, des cœurs de particuliers dotés d'une voix revendicatrice, criarde et inoffensive. Mais l'isolé absolu, celui qui n'est ni breton, ni corse, ni femme, ni homosexuel, ni fou, ni arabe, etc. Celui qui n'appartient même pas à une minorité. La littérature et sa voix qui, par un renversement paradisiaque, reprend superbement toutes les voix du monde et les mêle dans une sorte de chant qui ne peut être entendu que si l'on se porte pour l'écouter, etc., etc. Et ça, c'est le texte qui ouvre à ce livre de Roland Barthes, qui s'appelle évidemment « Solaire s'écrivain ». Philippe Solaire, c'est un texte absolument superbe, on pourrait dire un texte d'avenir.
Ce que Barthes, qui meurt peu après la publication de ce livre, parce qu'il est de... Il est paru en 79. Oui. Ce qu'il me semble vouloir dire, ce qu'il anticipe, ce qu'il prévoit, ce qui n'a fait que se développer depuis d'une façon massive, c'est justement le fait qu'il n'y aura plus de place pour l'individu problématique. Pour celui dont il rappelle, dans un autre texte, pour celui qui, comme le disait Kafka, pourrait dire de lui-même « je n'ai rien de définitif ». Nous sommes entrés à cette époque-là, à la sortie des années 70, dans une mécanique sociale de mise en place et de mise en image d'un certain nombre de rassemblements, de catégories, à laquelle il était et il est devenu absolument nécessaire d'appartenir. C'est-à-dire qu'il faut être défini comme appartenant à telle ou telle catégorie et imagerie sociale. Ce qui auparavant dans l'histoire était conçu comme une grosse machine du bien ou du mal, ou disons, si on prend la lutte des classes, selon deux grands paramètres, la bourgeoisie, le prolétariat, et puis entre les deux, des gens qui vont de l'une à l'autre, comme la petite bourgeoisie par exemple, des classifications de ce genre ont explosé, et Dieu sait si elles ont explosé par la suite, dans les 10 ans qui ont suivi, pour faire place à un théâtre où il faut appartenir socialement en se définissant comme appartenant à tel ou tel groupe, à telle ou telle particularité, à telle ou telle ethnie, à telle ou telle sexualité. C'est pour ça que l'énumération que fait Barthes là, pour parler d'un écrivain tout à coup, donc ça le préoccupe, et au fond quand il parle de moi, il parle de lui, selon la très bonne méthode qui consiste à faire une confidence personnelle en parlant de quelqu'un d'autre. Nous acceptons les particularismes, mais non les singularités. Les particularismes, mais non les singularités. Les types, mais non les individus. Alors, nous créons des cœurs de particuliers dotés d'une voix revendicatrice, criarde et inoffensive. C'est-à-dire,
oui, voilà.
Inoffensive, ça veut dire que la société va donc se débrouiller de plus en plus pour parquer dans une sorte de revendication qui n'aura aucune conséquence les particulier en niant ce qui lui importe par-dessus tout, la singularité de l'individu. Il y a probablement, et même sûrement, dans ce que j'écris depuis toujours, et dans ce que je dis, quelque chose qui a touché Barthes, là, au vif du sujet. Probablement, et même sûrement, avait-il, lui, envie, de multiples, d'innombrables conversations en témoignent pour moi, il avait envie par-dessus tout de la singularité et non pas de la particularité. Dans son cas, il est bien évident que le message est codé. Il n'a pas envie, par exemple, de la particularité dite homosexuelle. Il anticipe donc très bien sur le fait que, bon, cette particularité-là, désormais devenue quelque chose de parfaitement admissible, de l'égal, va être utilisé pour nier la singularité des sujets. C'est-à-dire que, du moment qu'il y aura cette liberté, on pourra faire comme si derrière ne se cachait pas un sujet absolument différent de tous les autres. Il ressemblera à ceux qui sont comme lui, mais qui sont différents d'autres. Barthes, au Collège de France, Ou avait-il coutume de me dire il n'avait été élu que par une voix de différence, ce qui prouve bien qu'après l'explosion de 1970 et dans les années qui ont suivi, la société avait besoin de se relégitimer et de se repeindre en nommant à des postes d'institution des gens qui l'avaient combattu pendant toute leur existence, ou qui avaient vécu dans ces marges contestataires, exemple Foucault,
absolument,
en même temps Caron, puis ensuite Barthes, c'est-à-dire nous sommes dans les années 70 dans ce grand mouvement de récupération et de ravalement des institutions. Période tout à fait sombre, intéressante, qui ensuite donne l'état social dans lequel nous sommes, ou qui est celle du consensus, de la convivialité soi-disant généralisée, de la transparence, et ce qui fait qu'il n'y a plus aucune opposition à rien, puisque tout le monde est d'accord sur le droit de l'homme, moi en tant qu'homme, n'est-ce pas ? Voilà, nous avons trouvé le mot de la fin. Moi en tant qu'homme. Alors je ne dis pas non plus moi en tant qu'homme, et c'est ça que... Non plus, c'est pas en tant que. Voilà ce qui intriguait Barthes chez les écrivains, et comment il les lisait. Qu'est-ce que c'est que cette singularité qui ne prétend à aucun moment, geste épouvantablement révolutionnaire, parce que quoi, vous êtes bien en tant que. Qu'est-ce que c'est que cette singularité qui va venir frapper, inquiéter, corrompre, dissoudre à chaque instant les formations d'identité qui sont en pleine reconversion et en pleine remodulation.
Donc il a radiographié en fait un état d'installation d'une censure absolument nouvelle,
oui, censure nouvelle
qui est installée aujourd'hui par ailleurs.
Hein. Censure nouvelle qui va piéger quasiment pavloviennement les individus dans la négation de leur singularité avec bénéfice à reconnaître leur particularité. Je pourrais m'étendre longuement, mais on va aller vite, sur le fait que, par exemple, le mouvement dit féministe, on pourrait en suivre l'évolution depuis les années 60 jusqu'aux années 90 à travers son retournement de libertaire en purement réactionnaire. Tout ça est assez clair, du moins pour moi. Mais revenons à ce que veut dire Barthes, et à ce qu'il veut dire par rapport à moi, c'est-à-dire par rapport à lui, ou à une espèce de lui idéal que j'incarnerais avec moins d'inhibition, ou moins de censure, ou moins de pesanteur que lui, ce qui est assez touchant dans l'histoire, parce que comme il est plus âgé que moi, nous n'avons pas eu la même histoire, nous n'avons pas eu les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, et donc j'appartiens à une autre histoire. Et quand Barthes parle de moi, au fond, ce qu'il veut dire, Solers écrivain, c'est Solers, il a inventé une forme de liberté à laquelle j'aurais bien voulu me livrer moi-même. C'est ça qu'il veut dire. Donc quand il part de Kafka dans son texte sur lequel je vais rester, qui s'appelle L'Oscillation, texte de 78.
C'est le texte de fin, hein, si je me souviens bien,
au Collège
de cette lecture.
De France, oui,
où il parle de l'image, n'est-ce pas ?
C'est ça.
Voilà.
Donc il commence par cette phrase de Kafka, qui est une confidence à Janosch. Je n'ai rien de définitif. Ce mot d'un écrivain nous renvoie à deux conduites, deux thèmes, deux discours, l'hésitation ou l'oscillation. Je n'ai rien de définitif. Cette parole énorme de Kafka se dresse à l'avance contre toutes les interprétations canonisatrice ou figée de Kafka. J'aurais inventé, selon Barthes, une sorte de technique qui serait celle de l'oscillation, qui serait nouvelle par rapport à ce qu'il appelle l'hésitation gilienne. Je n'hésite pas, j'oscille. Qu'est-ce que c'est que de devenir une sorte d'oscillomètre, hein ? Il est évident, dit-il, que Solers remet en question le rôle traditionnel de l'intellectuel. Je dis bien rôle et non fonction. Alors, depuis qu'il existe comme figure sociale, voilà, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle et plus précisément depuis l'affaire Dreyfus, l'intellectuel est une sorte de procureur noble des causes justes. Tout ça avec des majuscules, hein. Procureur noble des causes justes. Bien sûr, ce n'est pas la nécessité de son action qu'il s'agit de contester, c'est la consistance d'une figure de la bonne conscience, c'est un drapé qu'il s'agit de déranger. Or, cela laisse de toute évidence, hein, pratique une écriture de vie qui dérange constamment cette noble figure de l'intellectuel. Je n'ai rien de définitif. Et le poids de l'image qui tend invinciblement à se solidifier. Par conséquent, nous arrivons en 78, dans une anticipation magnifique, parce que dans quoi sommes-nous rentrés depuis, devant l'exacerbation du pouvoir de l'image dans la société du spectacle généralisée. Donc voilà quelque chose qui anticipe merveilleusement sur ce qu'il faut analyser aujourd'hui. Le poids de l'image qui tend invinciblement à se solidifier, car le destin de l'image, c'est l'immobilité, dont nous allons parler, de cette volonté de mort sociale qui implique qu'on transforme les autres en images, tous les autres, le réel en irréalité, et de telle sorte d'ailleurs que les morts que l'on verra sur image ne seront plus non plus des vrais morts, au point que vous pouvez voir des massacres complets le soir à dîner et vous demander si ce sont bien de vrais morts qui sont morts. Donc s'attaquer à cette immobilité de l'image, à cette vie de la mort qu'est l'image. Et là, c'est très bien parce que il montre à quel point si l'on est dans cette oscillation, on va avoir contre soi le préjugé très violent de l'intelligentsia. Et comment le premier ennemi que va trouver un écrivain qui affirme sa singularité, ce sera comme par hasard les intellectuels regroupés dans leur fonction, dans leur fonctionnariat, désormais salariés d'ailleurs. L'intelligentsia oppose une résistance très forte à l'oscillation. Forcément, puisque sa fonction sociale est de l'éviter. Et c'est un emploi. Qui a un salaire. L'intelligentsia oppose une résistance très forte à l'oscillation, alors qu'elle admet très bien l'hésitation. L'hésitation gidienne, par exemple, a été très bien tolérée parce que l'image reste stable. Et là, Barthes a cette formule merveilleuse sur Gide. Il dit, Gide, bon, donc beaucoup d'autres, représentent l'image stable du mouvant. Ça a beau hésiter, ça a beau changer, c'est stable. Solaire, au contraire. Alors, c'est Barthes qui parle. Il a de bonnes raisons de parler ainsi, de choisir Gide pour m'opposer à lui. Solaire, au contraire, veut empêcher l'image de prendre. C'est l'image que la communauté veut toujours sauver. Écoutez, comme ça va loin, ça. C'est l'image que la communauté veut toujours sauver, quelle qu'elle soit, dit Barthes. Quelque communauté que ce soit. Ça, c'est déjà très subversif. Parce que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que des mauvaises communautés. Il y a des communautés meilleures que d'autres. Moi, en tant que, je préfère telle communauté à telle autre. Non, Barthes va jusqu'au bout. Quelle qu'elle soit, la communauté, elle veut toujours sauver l'image. Car c'est l'image qui est sa nourriture vitale, dit Barthes. L'image qui est sa nourriture vitale, entendez sa nourriture mortelle, sa nourriture mortifère, sa nourriture de mortification, sa volonté de mort incessante. Et ça c'est moi qui parle, hein, la phrase de Barthes, car c'est l'image qui est sa nourriture vitale, et cela de plus en plus, nous sommes en 78, que dire en 92. Surdéveloppée, la société moderne ne se nourrit plus de croyances, parfait, comme autrefois, plus de croyances mais l'image.